Bonjour et bienvenue au balado de la désindustrialisation et la politique de notre temps, une initiative du partenariat de recherche transnationale qui regroupe chercheurs universitaires et autonomes avec plus que 35 centres de recherche, musées industriels, syndicats et archives à travers le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Italie. Je me présente, je m'appelle Fred Buril, chercheur postdoctoral à l'Université de Cap-Breton en Nouvelle-Écosse dans l'Est du Canada. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être ici avec Pascal Ragy. Bienvenue.
Bonjour Fred.
Pascal Ragy est maître de conférence habilité à diriger des recherches à l'Université de Lorraine, chercheur au Centre de recherche universitaire Lorraine d'Histoire et directeur scientifique du Musée de l'Histoire du Fer. Ses recherches actuelles concernent l'histoire industrielle, minière et sociale au 19e, 20e et 21e siècle. Il a récemment co-dirigé avec François Odigier Les syndicats face à la violence militante des années 1980 à nos jours, publié La désindustrialisation de la Lorraine du fer et dirigé un après-mine imprévu. Pascal, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui et j'ai hâte à discuter de tout votre travail, vos recherches, mais avant, je veux quand même poser une question sur votre parcours personnel. Souvent, les historiens qui s'intéressent à la désindustrialisation ont un lien quelconque personnel familial avec le sujet. Est-ce que c'est votre cas? Parlez-nous de votre parcours.
Alors merci, oui, moi aussi je suis très content d'être interrogé aujourd'hui sur mes recherches et puis aussi sur le parcours. Et comme vous l'avez dit, hein, dans mon cas, il y a un lien, on va dire, personnel, familial, avec l'histoire de la désindustrialisation. Alors, je vais commencer, je ferai court, hein, rassurez-vous, sur le lien familial. En réalité, mes deux grands-pères étaient mineurs de fer. Et c'est une industrie qui aujourd'hui a disparu en France. Et il y a un intérêt déjà qui commence tôt pour ce monde-là. Autre chose, moi je suis né dans une commune minière où la mine avait fermé dans les années 1960. Et moi j'habitais à une centaine de mètres de l'entrée de la mine. Et cette mine désaffectée, c'était un endroit où avec des amis, des copains, quand on était enfant, on faisait ce qu'on n'appelait pas encore de l'urbex, mais on allait faire de l'exploration des anciens bâtiments industriels. Donc il y a un lien vraiment personnel. Et puis, si je continue encore plus loin, mon propre père, dont le père était mineur de fer, lui, il travaillait comme comptable pour la dernière entreprise minière qui a exploité les mines de fer en Lorraine, qui s'appelait Lormine. Donc j'étais en contact aussi par son intermédiaire dans le quotidien, quoi, quand j'étais enfant et adolescent, avec ces histoires minières. Ça m'a en quelque sorte accompagné longtemps. Mais quand j'ai entrepris des études d'histoire, moi, j'ai pas pensé tout de suite à faire des recherches sur ça. Au départ, je voulais être enseignant dans le secondaire. En France, on dit en lycée, en collège. Et bon, je suis arrivé à l'université et puis j'ai constaté qu'à l'université, on n'enseignait pas encore beaucoup d'histoire industrielle et encore moins l'histoire de la désindustrialisation. Pourtant, elle avait déjà commencé en France. Et c'est comme ça que moi, je me suis lancé dans cette histoire-là. Et j'ai commencé par faire l'histoire des mineurs de fer pendant une période en France qui s'appelle les 30 Glorieuses. Alors, pour le monde académique nord-américain ou britannique, on dit plutôt le post-war boom. Nous, on dit les 30 Glorieuses en France. En tout cas, c'est la période qui va de 1945 à 1975. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur la désindustrialisation, mais sans vraiment le savoir, puisque moi, ma thèse, c'était de montrer que, avant de disparaître, l'activité d'extraction du minerai de fer en France s'était adaptée et avait modernisé sa façon de faire jusqu'au bout. Et c'était un peu aussi pour contredire ce que je pouvais entendre parfois sur l'obsolescence d'une industrie, etc. Puisque moi, j'avais vécu dans un domaine où effectivement, j'avais vu les progrès techniques, alors pas directement, parce que j'étais enfant et adolescent, mais je voyais bien que les gens qui travaillaient dans les mines ne travaillaient pas comme le grand public pouvait l'imaginer, et qu'on avait une industrialisation de cette de ce process de travail. Donc c'est vrai que je suis par mon milieu, on va dire, arrivé à la désindustrialisation.
J'ai lu dans un de vos écrits que vous travaillez brièvement dans une industrie qui faisait la fermeture des industries. Ça a dû être quelque chose.
Oui, c'est le hasard. Il se trouve que, comme beaucoup d'étudiants, je voulais trouver un travail d'étudiant. Et mon père, qui avait des relations, mais il avait des relations surtout dans le domaine industriel, m'a dit, écoute, si tu veux, tu peux trouver un boulot d'été dans une entreprise de pose de voies ferrées. Et donc moi j'étais content, c'était relativement bien payé, c'était dehors, enfin bon c'était intéressant comme travail. Et en fait, grâce à cette entreprise, même moi je le savais pas au départ, j'ai pu visiter des usines sidérurgiques, puisque une des missions de cette entreprise, c'était de poser ou enlever des voies ferrées à l'intérieur des grandes usines sidérurgiques. Et c'est comme ça que j'ai découvert aussi le process sidérurgique de près, parce que j'avais des cousins qui travaillaient dans la sidérurgie, mais j'étais jamais rentré dans une usine. Mmh. Et là, en fait, j'y rentrais. Et en plus, j'avais le droit de me balader dedans et de poser des questions aux sidérurgistes. Et il y a même une anecdote que je peux raconter qui est assez brève. Un jour, on était chargé avec un camarade qui travaillait avec moi. On était chargé de faire le graissage des engrenages et il pleuvait très fort. Et donc, les sidérurgistes qui nous voyaient nous disent, écoutez, là, on voit que vous pouvez pas travailler. Si vous voulez, on peut vous montrer notre travail. Et donc, j'ai visité une usine, mais accompagné par un guide qui était en fait un sidérurgiste. Et c'est assez intéressant de voir de l'intérieur. Et ce truc-là, je m'en suis souvenu après, plus tard, parce que entre-temps, j'avais continué mes études. Et cette usine, elle a été démantelée ensuite au début des années 1990. Et là aussi, ça m'a fait quelque chose, parce que moi, je l'avais vu en pleine action. En plus, la sidérurgie, on l'a dit beaucoup, et les gens qui participent à l'action de recherche dépôt le savent, la sidérurgie, c'est quelque chose de spectaculaire. Et quand on voit, moi j'ai vu remplir des camions poches avec de la fonte en fusion, c'est quand même assez extraordinaire, ne serait-ce que par de voir la matière, de voir la couleur de cette matière, c'est un orange très puissant, ça m'avait beaucoup frappé. Donc il y a aussi cet aspect-là, et c'est vrai que j'ai vu de près le process sidérurgique, même si j'y ai pas participé, mais c'était quelque chose que j'avais eu la chance de voir. Et après, plus tard, en tant que spécialiste de la désindustrialisation, j'ai aussi visité des usines, mais c'était pas la même chose. Là, je suis reçu, enfin, c'est très différent. Là, j'étais vraiment au contact avec un process de travail.
Mm-hmm. C'est sûr qu'on n'occupe pas la même place quand on rentre comme chercheur que quand on rentre comme travailleur ou travailleuse. Hein?
Oui, c'est vrai. Le travailleur, finalement, je dirais qu'il n'y a pas de méfiance de la part des autres travailleurs. Et nous, on était deux. Il y avait un autre jeune avec moi qui était aussi pour un boulot d'été. Les sidérurgistes nous avaient fait visiter en étant fiers de leur travail et puis en se disant, tiens, il y a deux jeunes. J'avais 20 ans ou 19 ans, je ne sais plus. Ça devait être 20 ans, ouais, 19 ans. J'avais 19 ans. Et donc, ils ont dit, voilà, on va leur montrer ce qu'on fait. Et ils avaient cette, en fait, ils étaient pédagogues, ils étaient professeurs finalement, puisqu'ils nous ont montré, et moi ça m'a frappé, la preuve, voilà, là où j'en suis aujourd'hui.
Juste pour nous situer un peu, surtout pour nos auditeurs nord-américains, est-ce que vous pouvez décrire un peu les grandes lignes brièvement de l'histoire de la désindustrialisation en France? Est-ce que ça ressemble à ce qu'on a vécu ici, aux États-Unis? C'est beaucoup différent?
Non, c'est assez similaire avec ce qu'on rencontre aux États-Unis ou au Canada, avec des périodes qui peuvent être décalées, hein, du point de vue temporel, mais les process sont les mêmes. Et pour la France, le grand mouvement de désindustrialisation, il débute, on va dire, avec les industries extractives, charbon, minerai de fer, et puis aussi d'autres substances qu'on extrait du sous-sol à partir des années 1960. Et au départ, avec ces industries extractives, c'est plutôt une réduction du nombre de sites et une contraction des effectifs. Et puis après, dans d'autres domaines, à partir de la crise des années 1970, on va avoir beaucoup d'industries anciennes qui vont être touchées par la désindustrialisation, avec toujours le même phénomène, diminution du nombre de sites par fermeture, par regroupement, et puis forte baisse des effectifs. Alors, il n'y a pas que la sidérurgie et les mines. Dans les années 1970, Les chantiers navals aussi en France vont être affectés par cette désindustrialisation. Et puis aussi l'automobile. Alors l'automobile a eu un sursis, enfin, ou un sursaut, les deux, un sursis et un sursaut. Et dans les années 70-80, a réussi à s'en sortir et à rester. Mais à un moment donné, cette industrie a eu une crise très forte qui a été importante en France, avec une forte diminution du nombre de gens qui y travaillent. Donc ça, c'est pour les premiers temps de la désindustrialisation, les années 70-80. Elle s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui, y compris au moment où on enregistre ce témoignage. Et finalement, on s'aperçoit, et c'est notamment des chercheurs qui participent à l'Action Dépôt qui l'ont montré, que cette désindustrialisation, elle continue. En France, elle continue, et elle a touché finalement des industries qui étaient peut-être moins visibles que celles que j'ai citées. C'est-à-dire qu'en France, comme en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, les chantiers navals, l'automobile, la sidérurgie, c'est très gros. Alors on a vu les soucis de ces industries, c'était très médiatique, parce que tout le monde était, voilà, on avait des centaines de milliers de personnes qui étaient concernées, donc quand une usine fermait, quand il y avait 5000 personnes qui étaient concernées, forcément, ça faisait du bruit et ça s'est vu. Mais on a vu, et c'est ce que je dis, et c'est le lien avec les chercheurs d'aujourd'hui qui travaillent là-dessus, que la désindustrialisation de la France, elle concerne aussi des territoires et des petites installations industrielles. Et on a même parlé de ça avec les collègues de dépôt, avec le lien avec l'épisode des Gilets jaunes qui a eu lieu récemment en France, avec cette histoire de distance de plus en plus grande entre le travail des gens et le lieu où ils habitent. Et auparavant, et moi, certains de mes étudiants travaillent là-dessus dans le cadre de recherches qu'on leur demande de faire en master, on s'aperçoit que des territoires qui étaient très industrialisés parce qu'il y avait un petit atelier qui employait 30, 40, 50 personnes, ces territoires-là aussi sont désindustrialisés. Et c'est beaucoup plus difficile à mettre en évidence. En France, on a Romain Castellesi qui avait fait une thèse sur ce sujet où il avait pris des différents sites. Alors, il avait comparé des sites qui étaient vraiment très industriels, les sites de l'automobile. Donc là, c'est évident, la désindustrialisation se voit beaucoup. Mais il y a aussi des sites où elle se voit moins parce que elle concerne de petits effectifs. Mais en multipliant tous ces petits effectifs sur l'ensemble du territoire français, il y a quand même un phénomène de désindustrialisation très important.
Il me semble qu'un élément sur lequel vous avez travaillé et qui fait différent un peu de notre contexte ici au Canada, c'est le rôle qui est joué par l'État français dans la désindustrialisation. Vous avez étudié ça en lien avec la sidérurgie et les mines de fer. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu cette histoire puis Est-ce que cette approche-là ou cette évolution du rôle d'État, est-ce que ça jouait dans d'autres industries aussi?
Oui, alors le lien entre l'État et l'industrie en France, il est intéressant parce qu'il est différent de ce qu'on a aux États-Unis, au Canada ou même en Grande-Bretagne. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a certaines entreprises en France qui sont nationalisées, donc qui deviennent propriété de l'État. Je pense notamment aux mines de charbon, à l'entreprise Renault qui fabrique les automobiles. Voilà, il y a certaines entreprises qui sont nationalisées. Et puis, à côté de ça, il y a d'autres entreprises qui restent privées, notamment la sidérurgie et les mines de fer. Mais à cause de la crise qui va les toucher à partir des années 1960-1970, ces entreprises-là, finalement, se rapprochent de l'État. Alors, ça ne veut pas dire tout de suite qu'elles vont être nationalisées, ça y viendrait après, mais l'État va faire très attention à ces entreprises. Et finalement, dès les années 1960, l'État négocie avec le patronat, qui reste un patronat privé, enfin avec une propriété privée des industries que je cite, mines de fer et sidérurgie, mais en même temps, une présence de cet État dans les négociations avec les patrons, les syndicats. Donc ça, c'est à partir des années 60. Après, à partir de 1966, c'est précis, l'État français demande aux sidérurgistes, dans le cadre d'une planification, alors il y a une planification qui est mise en place en France après la Seconde Guerre mondiale, et dans le cadre de cette planification, on leur demande, on leur dit, voilà, vous êtes trop dispersés, vous avez des entreprises qui sont trop petites, et à l'époque, c'est l'époque des ce qu'on appelle en Europe les champions nationaux, il faut que vous constituiez de grosses entreprises pour concurrencer ce qui existe, bah justement, par exemple, en Amérique du Nord, au Japon, ou même en Allemagne. Donc, on va vous encourager à devenir plus gros. Et donc, ce moment de 1966, il est intéressant, Parce que c'est précisément là que l'État va demander à des grandes entreprises sidérurgiques de se constituer, et ces entreprises vont s'endetter pour faire ça. Et donc, quelque part, d'une certaine façon, le fait que l'État demande à ces entreprises de s'endetter, ça va leur poser encore plus de problèmes à partir des années 1970, parce que l'État va avoir un rôle de huissier, c'est-à-dire qu'il va vouloir récupérer les dettes de ces entreprises, parce que l'argent, finalement, qui avait été prêté, c'était prêté par des banques qui appartenaient en grande partie à l'État, etc. Donc, à partir de la crise des années 1970, l'État va intervenir directement en deux temps. Premier temps, il va y avoir ce qu'on appelle une étatisation, c'est-à-dire que l'État va récupérer les dettes, un peu comme quelqu'un qui viendrait chez vous parce que vous n'avez pas payé votre crédit et qui récupérerait le téléviseur ou des choses que vous auriez achetées à crédit. Et puis, dans un deuxième temps, avec la victoire de la gauche au présidentiel puis au législatif de 1981, on va avoir une nationalisation qui va être effective pour la sidérurgie et les mines de fer à partir de 1982 et qui va durer jusqu'en 1995. Et en fait, pendant toute cette période, il y a un accompagnement social de la désindustrialisation qui est géré par l'État. Et c'est ça qui est un peu spécifique à la France, parce que l'État va accompagner cette désindustrialisation avec les syndicats, puisque les entreprises sont dirigées finalement par l'État.
C'est sûr que c'est quelque chose qu'on a vécu ici au Canada, en Nouvelle-Écosse, là, avec la sidérurgie au Cap-Breton, que ça a été nationalisé ou étatisé, qui finalement, ça a été finalement l'État qui gérait un peu la misère des...
C'est ça,
des gens qui... Puis est-ce que ça a été pareil pour d'autres industries en France, mettons les industries plus légères, les industries féminisées, ou est-ce que c'était vrai uniquement pour les grosses industries?
En fait, c'est d'abord pour les grosses industries. Il y a un autre exemple dont je parlais tout à l'heure, c'est les chantiers navals. L'État est aussi intervenu pour essayer, comme vous dites, de gérer la misère au moment où ça disparaissait. Mais en France, finalement, l'État, il est quand même bien présent, même quand il n'est pas là en tant que propriétaire de l'entreprise. L'accompagnement social est quand même très présent. Et en France, on a des préfets qui représentent l'État au niveau des départements qui vont intervenir. Vous parliez des industries légères. Par exemple, c'est Jackie Clark qui a travaillé sur les ouvrières de chez Moulinex. Alors Moulinex, pareil, c'est une entreprise privée, mais l'État se préoccupe quand même de ce qui se passe. Et là, alors le rôle de l'État, ça va plus tellement être d'être un État patron, un État dirigeant. Ça va être un État qui va plutôt être un État accompagnant dans dans le fait que les gens perdent leur emploi et essayent d'en retrouver un autre. Mais il existe, en France, je pense que, et d'ailleurs, je dirais même que c'est culturel, l'État est très présent chez nous. C'est un peu une différence, notamment avec les États-Unis, où les Européens, en tout cas en France, c'est le cas, mais c'est un peu pareil en Belgique, on a ce recours à l'État, où on se dit, mais finalement, que fait l'État?
Vous avez mentionné un peu au début votre intérêt pour les techniques de travail, parce que vous avez observé ça de près, puis j'ai trouvé ça très intéressant dans le sens que dans l'histoire du travail, l'histoire sociale de la vie ouvrière, c'est sûr qu'on se préoccupe beaucoup avec de cette question-là de processus de travail. Mais on dirait un peu moins avec la désindustrialisation. On s'est beaucoup intéressé à la mémoire, au vécu de la perte de ce monde ouvrier. Donc, le fait que ça occupe une place centrale dans votre réflexion, je trouve ça très... ça me parle, en fait. Fait que je me demandais si vous pourriez comme nous expliquer un peu plus en détail d'où vient cet intérêt, puis... En quoi, selon vous, étudier la transformation des techniques de travail aide à comprendre l'expérience ouvrière de la désindustrialisation?
En fait, la chose intéressante, à mon avis, sur cette histoire des techniques dans la désindustrialisation, c'est qu'on est sur un paradoxe. C'est-à-dire, alors moi je dis souvent ça un peu pour choquer mes interlocuteurs, je leur dis que finalement le travail industriel, à partir du moment où il devient intéressant et relativement protecteur pour les individus qui le pratiquent, c'est à ce moment-là qu'il est le plus menacé de disparition pour des raisons économiques. Et c'est un peu contre-intuitif, c'est-à-dire que, y compris pour des raisons politiques, et culturelle, on aime bien dire, voilà, les ouvriers, les ouvrières aussi, ça marche pour les femmes et pour les hommes, dans les deux cas, font un travail très difficile, ils se battent pour la fierté de leur travail, etc. C'est vrai. Mais à partir des années 70-80, dans de nombreux domaines, pour les hommes comme pour les femmes, on a une amélioration incroyable des conditions de travail. Et cette amélioration, elle est complètement effacée par les difficultés sociales du domaine industriel. Et donc, on a tendance à un peu jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit en français, c'est-à-dire à considérer que l'industrie, finalement, c'est terrible. Alors, non seulement c'est un travail très dur, mais en plus, on se débarrasse des ouvrières et des ouvriers quand on n'a plus besoin d'eux. Et moi, je trouve que c'est pas vrai. Je trouve que jusqu'au bout, jusqu'à la fermeture, et c'est ça qui est paradoxal, il y a des industries qui ont innové, qui ont voulu protéger leurs travailleurs et les travailleuses. Donc ça, c'est pour ça que ça m'a intéressé, parce que c'était pas le truc, c'était pas le récit qu'on attendait. Parce que c'est facile de dire, voilà, c'est un métier qui est dur, qui disparaît, enfin, mais c'était pas comme ça. Et parfois même, il m'est arrivé des choses, quand je faisais des entretiens oraux, qui étaient un peu marrantes, où j'attendais, j'étais un jeune chercheur, et puis j'attendais qu'on me raconte un truc terrible, que les gens me disent, oui, le travail était très dur. Mais en fait, ça dépendait de la génération. Et effectivement, par exemple, dans les mineurs que j'avais interrogés, j'avais des gens qui me faisaient un récit de conditions de travail très difficile, mais c'était plutôt des gens qui vivaient leur travail dans les années 60-70. Et après, ce travail a évolué, et les gens que j'ai interrogés, qui étaient plus jeunes, sans idéaliser leur travail, la question n'est pas là, m'expliquaient le travail qu'ils réalisaient, et qui n'avait plus rien à voir avec ce qui avait été fait par les générations précédentes. Et, pardon, c'est très dommage qu'on ait cette désindustrialisation et ces gros problèmes sociaux qui ont fini par cacher une évolution qui a été bénéfique aux travailleurs.
Et surtout, une évolution qui a été, j'imagine, qui a été gagnée par la lutte de ces travailleurs-là.
Ah, bien sûr, oui. Et j'en ai pas parlé, mais dans le... Parce que là aussi, il y a comme une tradition, on va dire... en France, je sais pas comment c'est en Amérique du Nord, mais de dire, oh, finalement, les syndicats ont perdu leur pouvoir, etc. C'est pas vrai. Il y a toute une époque où les syndicats réussissent, grâce à des luttes bien organisées, à gagner plein de choses, notamment sur ces aspects techniques, à adapter la machine à l'homme et non pas l'inverse. Et ça marche très bien. Alors là aussi, sans idéaliser, mais on avait une présence on va dire, des syndicats qui permettaient de canaliser l'évolution technique au profit du travailleur. Mais en même temps, il y avait un écho, en tout cas en France, entre peut-être les syndicats des ouvriers et les syndicats de l'encadrement. Et donc, y compris chez les cadres ou les ingénieurs, on a eu toute une génération de gens qui ont réfléchi à l'amélioration des conditions de travail des ouvriers, des employés. Ça, c'est aussi intéressant de le montrer. C'est-à-dire que les gens qui étaient dans l'encadrement avaient aussi conscience de la nécessité d'améliorer le travail pour les ouvriers.
Mm-hmm. Puis est-ce que selon vous, cette culture-là ou ces connaissances, est-ce qu'ils continuent à exister dans la région, même si l'industrie n'est plus là? Je pense notamment à Sydney, Capreton, où je travaille, où même si les grosses industries ne sont plus présentes, il y a vraiment quelque chose culturellement très ancré chez les gens qui même dans les job-in qui sont encore là, refusent des conditions dangereuses. Ou il y a des gens qui vont plus à une certaine épicerie parce que ça avait fait quelque chose de crush avec les travailleurs ou les travailleuses. Est-ce que ça continue en Lorraine?
Ça, je dirais que ça dépend des zones géographiques, mais qu'il existe cette tradition, parce qu'il y a une connaissance de ce qui s'est passé auparavant, qui fait qu'effectivement, dans les industries qui restent, parce qu'il y en a qui restent, il y a quand même une tradition d'encadrement, notamment par les syndicats, et on va dire de protection et de souvenir des luttes sociales. Donc ça, c'est très important. Maintenant, en Lorraine, il y a un cas particulier. Il y a beaucoup de travailleurs, hommes, femmes, qui vont... travailler au Grand-Duché de Luxembourg, qui est frontalier. Et donc là, les conditions ne sont pas les mêmes, parce que souvent, ils vont travailler dans des secteurs qui ne sont pas des secteurs industriels. Et donc, on n'a pas les mêmes traditions de protection sociale, bien que au Luxembourg, et il faut quand même le reconnaître, on a aussi une tradition qui ressemble à celle qu'on a en France de protection dans certaines industries. Donc c'est quelque chose qui reste pour l'instant, c'est quelque chose qu'on a encore. Les gens peuvent se mobiliser, mais à la limite, je dirais même que c'est en amont de ça. Avant de se mobiliser, il existe cette tradition-là, on va dire, de volonté de se protéger. Enfin, ça, c'est un peu resté depuis l'époque industrielle.
Il y a une raison pour laquelle ça intéresse beaucoup les chercheurs, les historiens, historiennes de la désindustrialisation, cette culture ouvrière-là, qui reste malgré le fait que l'industrie n'est plus là, parce qu'on dirait que c'est là où il y a le potentiel politique, justement. Est-ce qu'on a vu, chez vous en Lorraine, est-ce qu'on a vu un virage vers la droite politique comme on a vu dans d'autres régions désindustrialisées en France? C'est quoi la composition politique suite à la désindustrialisation?
Alors en Lorraine, c'est assez singulier parce que... alors là, ça va être compliqué pour les auditeurs d'Amérique du Nord.
Ah, mais c'est pas grave.
Ça dépend des zones. Et en fait, il y a des particularismes qui sont assez intéressants. Par exemple, dans la zone frontalière avec le Luxembourg, on peut avoir d'un côté... des gens qui sont restés à gauche avec des gens de gauche qui se rattachent finalement à ce passé de lutte sociale, etc. Donc actuellement, présentement, hein, avec des députés, des sénateurs qui sont de gauche. Pas très loin de là, on va avoir une progression des modérés, on va dire, entre centre-gauche et centre-droit. Je n'entrerai pas dans les détails, ça serait trop compliqué. Donc, qui existe même y compris dans les zones où auparavant on était bien plus à gauche et où on soutenait par exemple le Parti communiste, etc. Donc il y a une évolution vers plutôt le centrisme. Et puis il faut reconnaître aussi que dans certaines zones désindustrialisées, je pense notamment à la Moselle charbonnière et puis à certaines localités, on est passé vers un vote Rassemblement national. Et à mon avis, c'est aussi un vote qui correspond à un comportement que je résumerai en disant on a tout essayé, c'est-à-dire on a voté à gauche, on a voté modéré et on n'est toujours pas content et on vote Rassemblement National. C'est aussi ça, une trace de la désindustrialisation, c'est ça. C'est-à-dire que comme on n'arrive pas à remplacer les usines par autre chose de mieux ou d'équivalent, on n'arrive pas, quand on est électeur, à trouver des représentants qui paraissent nous défendre. Moi, je l'interprète comme ça parce que la gauche est encore présente à certains endroits en Lorraine et on s'aperçoit que les élus sont des gens qui sont très investis. Donc, c'est cet investissement qui les fait élire. Je suis pas sûr que c'est seulement leur étiquette, entre guillemets, de gauche qui fait qu'ils sont élus, mais c'est surtout des gens qui sont proches de leurs électeurs. Et ils sont de gauche, bon, ça c'est sûr. Mais en même temps, ce sont des gens qui sont là, qui sont présents. Donc il faudrait, moi je suis pas spécialiste d'histoire politique, mais il faudrait voir ce qui motive les électeurs à voter pour cette gauche-là, qui n'est plus une gauche liée à l'industrie, puisque l'industrie a disparu à certains endroits, mais qui sont des gens qui sont à l'écoute de leurs électeurs.
Parlons de « on a tout essayé », là.
Oui.
J'ai trouvé ça important, ou je trouve ça important de toucher un peu à votre recherche sur la violence militante, la violence syndicale en France, entre autres parce que c'est quelque chose qui n'existe quasiment plus ici. Tu sais, on a eu... ici au Québec, en tout cas, il y avait vraiment une période très difficile dans les années 60-70 qui était marquée par des luttes syndicales importantes et violentes. Mais rendu à nos jours, le mouvement syndical, c'est principalement dans le secteur public. Tu sais, on est en grève générale en ce moment du secteur public, mais c'est jusqu'à date, puis normalement, c'est des grèves très polies, là.
Oui.
Fait que la façon de faire qu'on voit en France, ça marque l'imaginaire nord-américain. C'est quelque chose qui nous frappe. Qu'est-ce qui, selon vous, explique ce phénomène-là, puis en quoi c'est lié à la désindustrialisation?
Alors, la violence militante en France, elle est comme en Amérique du Nord. Elle a été beaucoup plus importante dans les années 1970, hein, jusqu'au début des années 80. Les derniers grands mouvements violents, c'est les années 1970-80. Il y a eu un mouvement aussi dans les années 1990 qui concernait la réforme des retraites. Mais sur l'industrie, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le rôle de l'État. La violence militante, elle est liée aussi à un niveau d'attente assez élevé vis-à-vis de ce que l'État pourrait faire. Et c'est pour ça qu'il y a cette violence. Parce que si on fait attention, cette violence, elle s'en prend à des symboles de l'État. Ce qui aussi doit surprendre pour les gens d'Amérique du Nord, on n'attaque pas forcément que les patrons, même si ça existe, et nous on en a parlé avec François Audigier dans notre travail sur la violence militante, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une sorte de désespérance vis-à-vis des promesses de l'État. Et ça, c'est très important parce que ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est peut-être pour ça aussi que la violence est plus présente. Parce qu'on a l'impression de s'en prendre, c'est la référence historique, au monstre froid, c'est-à-dire à l'État. Et pour le faire bouger, il va falloir le choquer. Et je pense qu'il y a cette notion-là. Après, ce qui est paradoxal, et je tiens à le dire pour les gens qui vivent en Amérique du Nord, c'est que les syndicats français ne poussent pas à la violence. Hein. Ça fonctionne pas comme ça. Et on s'aperçoit que dans de nombreux cas, et je pense notamment au travail que réalise Théo Georget sur ce qui se passe à Longwy, donc qui est en Lorraine dans les années 1970-1980, dans de nombreux cas, le syndicat est obligé de courir après ses militants, une façon de parler imagée, pour rattraper ce qui a été fait. Et c'est très curieux. Mais je crois que le rôle de l'État est important aussi parce qu'on veut à tout prix exister, et c'est face à cet État qu'on a des comportements violents. Il peut y avoir des comportements violents vis-à-vis des patrons, mais en général, c'est plutôt les symboles de l'État qui sont attaqués.
Fait que on pourrait dire à quelque part que l'expression de la colère de la classe ouvrière dans ces actions-là, c'est une expression autonome qui par la suite va à l'encontre de l'espèce de partenariat État-Syndicat.
Oui, tout à fait. Oui. Alors complètement. C'est-à-dire que même le mot autonome, il est intéressant parce qu'il désigne un mouvement politique. C'est ça. On a eu, et c'est un peu bizarre et paradoxal, c'est-à-dire au fur et à mesure que les syndicats, le patronat et l'État apprenaient à négocier, à travailler ensemble, il y a eu aussi des accès de fièvre comme ça, où finalement, il y a des débordements. Et ça va avec, enfin, ça se passe en même temps qu'une pacification. C'est ça qui est paradoxal, mais qui est la réalité de ce qui s'est passé en France. En tout cas, nous, on a travaillé sur les années, des années 80 jusqu'à 2016. Et d'ailleurs, dans notre travail, c'est ça qui est un peu aussi original, c'est qu'on s'arrête juste avant des nouvelles formes de protestation. Et les gens dans le monde ont vu ce qui s'est passé avec l'épisode des Gilets jaunes. Et là, on est clairement sur quelque chose de nouveau, mais qui en même temps renoue avec une sorte de tradition française, voilà, de protestation. Et encore une fois, les Gilets jaunes s'en prennent à qui ? S'en prennent à l'État. Enfin, on est toujours sur cette opposition-là entre des gens plus ou moins autonome et une structure qui est identifiée comme étant responsable de leur malheur. À juste titre, parfois, hein, j'ai pas dit que c'était pas vrai, hein, mais je l'explique froidement. Mais vous avez aussi une critique, voilà, de ce rôle de l'État, voilà, qui est quelque chose d'important. Parce qu'on a pris l'habitude de voir l'État intervenir. Et donc, quand il se passe quelque chose qui ne va pas, bon, on se retourne pas forcément contre le patronat ou contre une entreprise en particulier, mais contre des gens qui sont là pour nous accompagner, pour gérer, etc. Donc, les autorités de l'État.
C'est intéressant, en fait, de voir comment les différents contextes nationaux ils façonnent l'expérience et la résistance à la désindustrialisation, même si le processus économique en tant que tel, ça se ressemble d'un contexte à l'autre. Puis ça m'amène à ma dernière question qui a rapport plus avec notre partenariat de recherche parce que ça fait maintenant presque 3 ans que vous participez à des colloques et des congrès du dépôt. Pour vous, comment est-ce que ces échanges transnationaux ont influencé votre compréhension de la désindustrialisation chez vous en France?
Alors moi, ça m'a beaucoup apporté d'échanger avec des collègues qui sont dans d'autres pays. Déjà parce que c'est une... Alors je vais essayer d'être précis. C'est d'abord une source d'inspiration. C'est-à-dire que voir ce qui a été fait dans d'autres pays peut, d'un point de vue méthodologique, alors là, vraiment d'un point de vue méthodologique, ça m'intéresse beaucoup et on s'en inspire. D'ailleurs, moi, j'avais commencé avant même dépôt. Moi, j'avais, quand j'avais commencé mes propres travaux sur la désindustrialisation, c'était les travaux de Stephen Hyde qui m'avaient vraiment inspiré au départ. Et je me suis dit, si quelqu'un est capable de le faire pour l'Amérique du Nord, hein, c'était Industrial Sunset, le livre que j'avais lu, je me dis, mais ça, il faut le faire pour la France. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui m'avait... Je crois que le livre est de 2003, je sais plus. Enfin,
oui, 2003, ouais.
Voilà. Et moi, j'avais lu ce truc et je m'étais dit, mais oui, c'est ce que je veux faire. Et donc, je veux prendre l'évolution, on va dire, historique de l'industrie en France avec cette désindustrialisation en ayant des méthodes qui se rapprochent de ce que font les collègues canadiens ou des États-Unis. Et vraiment, ça m'avait inspiré. Parce qu'en France, je tiens à le préciser, pendant longtemps, on n'a pas employé le terme de désindustrialisation. Parce qu'en France, on aime bien les euphémismes. On aime bien dire des choses, mais sans le dire vraiment. Et donc, la désindustrialisation, éventuellement, c'était un truc qui aurait pu ramener à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale quand il y a eu des démontages d'usines, etc. Mais même pas. On parlait pas de ça. Moi, quand j'étais jeune, j'entendais parler de restructuration industrielle. C'est pas la même chose parce que la restructuration industrielle c'est pas la désindustrialisation. Mais finalement, au bout du compte, maintenant en France, tout le monde parle de la désindustrialisation, les politiques y compris. Donc ça, c'est un apport, je pense, des échanges qu'ont eu les chercheurs et de ce qui s'est fait d'abord, on va dire, chez les Canadiens et chez les Américains. Ensuite, c'est venu chez nous. Alors les Britanniques aussi ont travaillé là-dessus, mais ça c'est déjà une première chose. Ensuite, moi je suis très content de rencontrer les gens dans le cadre du projet de dépôt, même si j'ai un regret, moi je participe pas à grand-chose. Finalement, si je regarde, on est tous un peu dans son couloir. Alors j'essaye d'échanger avec les collègues, je suis très content, mais finalement on s'aperçoit aussi de l'ampleur de la désindustrialisation grâce à ces liens qu'on fait avec les collègues des autres pays. Et moi je découvre des choses. Enfin, au premier sens du terme, il y a plein de choses que j'apprends grâce à cette action de recherche, parce que je lis des choses, je suis des enregistrements, etc. Et donc, c'est quelque chose qui me sert, mais de façon très, on va dire, très pratique, pour réfléchir. Je prends deux exemples. L'exemple de travailler en parlant de communauté ouvrière. C'est quelque chose qu'en France, on avait tendance à moins utilisé que le concept de classe. Alors le concept de classe ouvrière, il est intéressant, il est validé. Enfin, voilà, on travaille avec. Mais quand on parle de communauté, et notamment, je pense aux travaux qu'avait fait à l'époque Jefferson Cowie sur le staying alive, etc., et qui finalement sont liés aussi aux travaux les plus récents qu'on trouve maintenant dans le cadre de dépôt, c'est vraiment très bien. On réévalue donc déjà la notion de communauté. Ça, c'est quelque chose qui vient de chez vous, enfin qui vient d'Amérique du Nord et qui nous, on pensait pas forcément comme ça. Et on s'aperçoit que pour beaucoup de lieux qui ont été désindustrialisés, en passant par communauté, ça marche très bien pour essayer d'expliquer certains phénomènes. Et deuxième exemple, c'est l'exemple d'économie morale. On avait eu un échange dans le cadre de dépôt aussi pour travailler sur l'économie morale donc de Thomson. Est-ce que c'est encore valable cette histoire pour des ouvriers du XXe siècle qui ne sont plus des pauvres comme c'était identifié au XIXe siècle? Et moi, ça m'avait permis de réfléchir là-dessus. Et c'est pour ça que c'est très enrichissant. Si j'étais, on va dire, provocateur, je dirais que dépôt, ça me permet de faire de l'espionnage industriel et de me servir de ce que j'entends pour mes propres travaux. C'est vraiment très intéressant parce que c'est des points de vue qui sont pas forcément... Vous disiez tout à l'heure que le timing des process macroéconomiques, il est à peu près le même au Canada, à peu près au Canada, en France et aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, en Allemagne, mais les contextes nationaux sont importants. N'empêche que ce qui se passe dans le contexte national, quand on l'observe, ça donne des idées aussi pour notre propre contexte national. Et ça permet de faire des comparaisons. Alors pas forcément une étude comparative, mais de nous donner des idées. Moi, je trouve que ça permet de comprendre la désindustrialisation aussi, et puis comprendre aussi peut-être les défauts du système français par rapport à d'autres pays où on a su se préserver, pas globalement, mais se préserver dans certains endroits de la désindustrialisation. Je prends deux exemples. Le Canada, où il y a eu une intervention de l'État qui a pu être réussie, alors pas forcément comme en Nouvelle-Écosse, mais à d'autres endroits. Et puis en Allemagne, où il y a une politique, on va dire, de capitalisme d'État qui permet de protéger aussi certaines industries.
Ça va dans les deux sens, cet enrichissement-là. Je pense juste à mon cas qui a été beaucoup dans l'étude des communautés ouvrières ou post-désindustrialisées plutôt que post-industrielles. Et que maintenant, moi, j'emploie beaucoup plus le framing ou l'encadre ou le en tout cas, comment dire,
mais cadre, oui.
Le cadre, oui, exact. Merci de la classe, en fait.
Voilà.
Je suis revenu à ce formule-là. Fait que ça va dans les deux sens. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Pascal, que vous aimeriez ajouter ou d'autres réflexions à partager?
Ouais, je crois que ce qui est aussi intéressant, avec la désindustrialisation, et c'est Xavier Vignat et Marion Fontaine qui l'ont mis en évidence aussi dans une publication, c'est que c'est quelque chose qui est encore en train de se passer. Et donc, on est historien, on est sociologue, on est anthropologue, etc. Mais il faut aussi voir que c'est un process qui est encore en cours. Et donc, c'est aussi l'intérêt aussi de nos rencontres, c'est de comparer des choses du présent et pas seulement les choses qui se sont passées, avec peut-être des formes de réindustrialisation qui vont arriver, mais qui auront peut-être rien à voir avec ce qu'on a connu du point de vue de l'industrialisation des 19e et 20e siècle. Donc ça aussi, ça éclaire pas mal le présent, je trouve, d'être en relation avec les collègues de dépôt, parce que on est sur quelque chose de global.
Tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été là avec moi aujourd'hui, puis avec nos auditeurs.
Merci à vous.
De partout au monde. Le balado... Ça poursuit pour l'année 2023, puis ça va continuer en janvier, février. On a, dans les prochains mois, on va avoir des entretiens avec Andy Clark, qui est un chercheur à l'Université de Newcastle, sur le sujet du vieillissement et la désindustrialisation, avec des invités spéciales également dans un prochain épisode de l'Université de Luxembourg, qui vont nous parler de la désindustrialisation dans leur contexte. Et en troisième lieu, un entretien avec Amanda Marie Witt, qui est une étudiante à la maîtrise ici à Concordia, qui travaille sur la désindustrialisation dans l'industrie forestière dans le nord-ouest américain. Fait que restez à l'affût, il y a plein de choses intéressantes qui s'en viennent. Et je vous souhaite une très bonne journée.
Merci.